La question de Jaïs.
Ma question en fait c'était de savoir pourquoi est-ce qu'avec les personnes qu'on avait connues par le passé et qu'on revoyait après avoir essayé d'entamer un processus de Tshuva, pourquoi le fait qu'on essaie de s'orienter vers la Torah et d'évoluer en Torah, ça leur posait problème alors qu'on voit que des fois il y a des personnes très tolérantes, quand ils voient qu'on choisit notre voie et que c'est pas une voie très répandue, ils disent bah il fait ce qu'il veut, c'est pas son problème, ils respectent totalement. Mais quand ils voient que c'est qu'on a changé de sens et qu'on est allé dans la Torah, spécifiquement dans la Torah, ça leur pose problème et ils ont autant de. Enfin, presque de rancune envers nous. On entend souvent la phrase où il a tourné, il a changé,
on lui a bourré la tête.
Okay, il y a trois sortes de personnes. Il y a. Avant d'expliquer quelles sont les trois sortes, je vais peut-être expliquer le phénomène, d'accord? Le phénomène est le suivant. On a une partie en nous, la Neshama, Yetzer Hatov, le bon penchant, qui est un éclairage divin, et qui nous dit que la Torah est la vérité, beaucoup de gens sont croyants. Ou en tout cas, même si on ne sont pas croyants, il se peut qu'il y a, en tant que juif, tu devrais quand même aller vérifier qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est le problème, un non-croyant. Un croyant dira, bon, la Torah, c'est une vérité, on ne peut pas la faire moitié-moitié. Donc c'est normal de s'investir là-dedans. Après que tu as investi 12 ans dans les études, bac plus 1, plus 5, plus 10, d'accord. Après le boulot, enfin, il y a autre chose. Tu n'es pas venu sur Terre rien que pour manger, boulot, dodo, d'accord. Tout le monde dira, comprend ça. Mais on est pris par le train-train quotidien, par l'appât du gain, par l'appât des plaisirs, par l'appât du etc. Mais en nous, il y a cette neshama qui te dit, tu es en train de te planter. Maintenant, vu que l'appât du gain, la facilité, la paresse, la non-envie de s'astreindre à l'observance scrupuleuse de la Torah, toutes ces choses-là font que on zappe, comme on dit, le message de la Neshama. J'ai en moi une partie qui dit, fais tchouva, sois un bon juif, va étudier, mange plus cachère, arrête de regarder les filles, fais Shabbat plus scrupuleusement, voilà. Mais lui, ça le dérange terriblement, cet appel la Neshama. Alors il va développer des anticorps. Toute une sorte d'argumentation. Ouais, non, mais dans ce monde-ci, il faut bien vivre. Des arguments bidons. Il ne faut pas être extrémiste. Je suis dans un juste milieu. Enfin, moi, j'ai un bon cœur. Je ne me fais de mal à personne. Donc, l'essentiel, c'est le cœur. Et on avait même vu des religieux qui sont peut-être religieux, mais ils font le mal autour d'eux. Toute une panoplie de soi-disant légitimations plus fausses les unes que les autres. C'est vrai qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, mais c'est vrai aussi qu'il faut être un bon juif. À 100%. Extrémiste, il ne faut pas être extrémiste, mais il faut être extrémiste dans la vérité, dans le bien. Oui, extrémiste du bien, de la vérité, absolument. Quelqu'un qui n'est pas extrémiste dans le bien, eh ben c'est un moitié bien, moitié mal. Tu veux être un moitié mal. Quelqu'un qui n'est pas extrémiste dans l'honnêteté, ben c'est un demi-malhonnête. D'accord? On est extrémiste du bien. Oui, absolument. Faut pas pousser, faut pas exagérer, le juste milieu, d'accord. Juste milieu, c'est une bêtise. Ils disent, il y a un bruit qui court comme quoi Maïmonide aurait dit le juste milieu. D'accord. Oui, il a dit, dans les midotes, dans le trait de caractère, faut un juste milieu, faut pas être trop généreux, tu vas tout dilapider, tu n'as plus rien pour manger toi-même. Tu deviens toi-même le pauvre qui doit demander, fais faire le manche pour te nourrir. C'est crétin. Faut pas non plus être trop radin, il faut donner aussi, dans un juste milieu. Il faut pas être trop, on va dire, cruel. Mais non plus pas trop miséricordieux. Des fois, il faut être cruel. Ton enfant qui veut une cinquième glace, et il se met à pleurer. Et toi, tu es trop miséricordieux, tu lui donnes, allez, tiens, une sixième glace, et tu l'envoies à l'hôpital pour indigestion. Mais il y en a qui sont trop cruels. Non, pas une glace. Une glace, jamais de la vie. À quoi ça sert? C'est doux, c'est froid. Mange du pain, c'est bien plus sain. D'accord? Bon, ça, c'est peut-être un peu trop cruel. D'accord? Tout dépend. Donc, il faut un juste milieu. Mais au niveau de la Torah, Maïmon a dit qu'il fallait faire un juste milieu. Un Shabbat, oui, un Shabbat, non. Juste milieu. D'accord? Shabbat, cool, avec la télévision allumée, avec minuterie. Non, ça n'existe pas un truc pareil, quoi. Les filles, pas de femmes mariées, mais bon, une femme pas mariée, pourquoi pas, d'accord. Non, il n'y a pas de juste milieu, c'est complètement faux, ça n'existe pas, d'accord, c'est archi faux. Donc, ces personnes-là, vu qu'elles ont un appel de la Neshama, qui leur dit « t'es dans le faux », mais qui ne sont pas capables d'assumer ça et de changer, parce que ça remet trop de choses en question au niveau de leur commodité, de leur paresse, etc., etc., qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un refoulement, une sorte d'argumentation contre ça. et dire qu'il ne faut surtout pas être plus que ce qu'ils sont eux. Tu as toutes sortes de juifs, plus libéral que lui, c'est faux, parce que c'est libéral, on n'en est pas des libéraux, mais plus orthodoxe que lui, on n'est pas des orthodoxes, on est des bons juifs. C'est nous, les bons juifs. Maintenant, toi, l'orthodoxe qui est orthodoxe, qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est un fêlé. Il n'a pas encore quitté le ghetto. Il vit comme encore, il y a 300 ans, dans Shtetl. Un peu, regardez, il s'est mis encore comme ça. C'est des gens, puis en plus... t'as toutes les sortes de films sur Netour et Karta qui vont embrasser Armand et Jad. Enfin, il y a tout un argumentaire, soi-disant argumentaire, d'accord, pour, comment on appelle ça, pas tranquilliser, justifier, non, conforter la personne dans sa position de bon juif. Maintenant, toi, tu viens, t'es son copain, t'es son frère, t'es son fils. Et tout à coup, attends, et le type... Il t'aime bien, il sait que toi, t'es un type normal. Eux, c'est des fêlés. Eux, c'est des escramis. Mais toi, t'es un type bien. Si toi, tu fais tchouva, forcément, ça remet en question. Tu lui as mis un poignard dans le cul. Etc. Il est parti, la Nechama dit, tu vois, ton copain, que t'apprécies, que tu dis qu'il est un type bien, lui, a fait tchouva. Alors toi, espèce de crétin, qu'est-ce que t'attends? Donc lui, il a obligé de changer, faire tchouva. Mais il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il est bien dans son petit train-train. Il ne veut pas s'astreindre à la contrainte de la pratique de la Torah. Il ne veut pas, pour mille raisons, qui sont des raisons de Yetzer, qui ne sont pas des raisons vraies, qui sont des raisons de commodité. Donc pour pouvoir préserver sa commodité, il doit créer maintenant une argumentation pour casser le plaidoyer de la Nechama. Aujourd'hui, la Nechama, ça fait 30 ans qu'elle lui dit, 20 ans qu'elle lui dit, fais tchouva. Bon, là, on a plus dur, on a tout l'argumentaire connu. Ghetto, obscurantiste, extrémiste, tout coup. Le copain, le type qu'on appréciait, lui fait tchouva. C'est un super argument. La Nechama, nouvel argument, tac, on met, ah là, il a fait tchouva. Qu'est-ce que tu dis à ça? Il faut vite, vite trouver maintenant un argument. Ah, on lui a bougé, on lui a bourré le crâne. Ah, lui aussi, il a tourné, ouais, il avait des problèmes psychologiques. Folie passagère, ça passera.
Ah, c'est vrai que la plupart des gens qui font tchouva s'essuient quand même un problème. Il faut peut-être expliquer pourquoi aussi c'est vrai qu'on a tendance à faire tchouva après un problème.
Ah, c'est bien que tu poses la question parce que je suis entièrement pas d'accord. Et je vais répondre pourquoi. Je vais répondre pourquoi. Quand quelqu'un a un problème, il va voir le psy. Quand quelqu'un fait tchouva, je vais répondre, après si tu n'es pas d'accord, quand quelqu'un fait tchouva, c'est parce qu'il est devenu tout à coup perméable à l'appel de la Nechama. Cet appel de la Nechama, on l'a. Depuis qu'on est petit, on l'a. Simplement, pour beaucoup de raisons, on le camoufle, on le colmate, etc. Maintenant, de deux choses l'une. Il y a des cas où, par un mérite de la personne, Dieu donne un boosting à la Nechama. Et Nechama, tout coup, elle commence à éclairer très fort. Et le type, il se dit, alors on ne peut pas appeler ça un problème psychologique, on va appeler ça un problème identitaire, mais c'est philosophique, ce n'est pas qu'il y a des problèmes psychologiques, c'est identitaire. Et ça, c'est légitime. Il y a une question, pourquoi tu vis? C'est quand même la question des questions. Mon vieux, dans 70 ans, 80, 120 ans, tu n'es plus là. Pourquoi tu es venu? Mettre au boulot dodo. Et dans quelles conditions, mon vieux? Tu es un peu là. Malheureux. D'accord, aujourd'hui c'est la catastrophe, au moins il n'y a rien, quoi. La crise, rien, la débauche, enfin, rien. Alors, c'est quoi le but? Lui, il colmatait, je vais finir tout après, il colmatait, mais Dieu pour un mérite, d'habitude, ou mérite des parents, des ancêtres, ou un mérite d'une fois qu'il a fait lui, ou souffrance qu'il a eue, tout à coup maintenant, un éclairage extraordinaire, et il dit, mais c'est vrai ça, pourquoi je vis? Ouais, je vais au cours de Torah. Il ouvre Internet, il va à un cours, il va à un séminaire, tac, ben c'est la vérité. Génial, j'avance. Des fois, lui, dans sa vie, il n'y a aucune raison, il n'y a pas un mérite spécial qui fait que, par lui-même, tout à coup, il ouvre, il ouvre son cœur, écoute maintenant l'appel de la Nechama. Lui, il vit son train-train. Par un mérite, néanmoins, Dieu veut le sortir de là-bas. Parce que s'il continue son train-train, il va tout droit à la tombe et terminé. La tombe est mort. Mort, je veux dire, olam azé, olam abba. Donc Dieu, par un certain mérite qu'il a, veut le sortir. Bon, on lui met un petit appel d'échamin, bon, mais il reste imperméable. Qu'est-ce qu'on fait? Chlar. Accident de voiture. Décès dans la famille. Redressement fiscal. D'accord? Etc.
Déception amoureuse.
Très bien. Ou des fois, il faut le dire. Un des grands, il faut le dire, et beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans, je trouve que c'est un dicton au nom d'un film, chercher la femme. D'accord? Un des grands moteurs de la tchouva, c'est la femme. Une femme qu'on connaissait, elle a fait tchouva. Alors là, tout même le Tzera, il est d'accord, il dit, bon, ouais, une femme pareille, écoutons un peu la Neshama. Écoutons la Neshama. Et d'une pierre deux coups. Et la femme, et la Yeshiva, ça existe aussi. Ou dans l'autre sens, hein, chercher l'homme, ça arrive aussi. C'est un grand moteur, il faut le dire aussi. Donc, des fois, le choc qui est dans la vie est assurément un terrain fertile, pas parce que j'ai des problèmes psychologiques, non. C'est un terrain fertile de remise en question. Parce que quand tout va bien, dans le meilleur des mondes, pourquoi je me mettrais en question? Tout va bien. Quand ça ne va pas, tu dis, alors pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il est parti? Pourquoi cet accident? Mais qu'est-ce que c'est quoi le but? Ce choc-là fait que tout à coup, etc. Quand ça va bien, il faut bien comprendre. La Torah prédit et dit que quand Am Israël viendra en terre d'Israël, on part en sortant d'Égypte, d'accord? Moshe Rabbeinu nous dit, vous rentrez en terre d'Israël. Kassita, Avita, tu te rempliras de graisse, tu vas grossir, tu auras de la richesse, des pâturages, du bétail, agriculture, et tu vas oublier Dieu. On dit, où est le rapport? Pourquoi quelqu'un, parce qu'il est riche, il oublie Dieu? Eh bien oui, messieurs, c'est pas forcément qu'il oublie, Dieu n'existe plus, mais quand quelqu'un, ça va pas, s'il est croyant, eh bien il regarde en haut. Quand quelqu'un, ça va, eh ben, regarde en haut de temps en temps, oui, merci Dieu, Baruch HaShem, tout va très bien, mais bon, ça va. Mais quand ça va pas, c'est comme ça, ça fait plus mal, quand ça fait mal, tu commences à crier. Donc dans cette situation de choc dans la vie, ça peut être un terrain fertile pour... pas trouver un échappatoire à nos problèmes dans la yeshiva, absolument pas. La yeshiva, au contraire, c'est très... les gens imaginent qu'ici, c'est une planque, c'est faux. Je défie qui que ce soit de venir ici, étudier 9 heures de Gemara par jour, vous allez voir ce que c'est. Alors, Messana Bachaoul disait, vous savez, c'est quoi étudier la Gemara? C'est prendre une pioche, taper dans du béton. Vas-y, 9 heures par jour, tard. C'est très dur. Il n'y a rien, je crois qu'il n'y a pas de métier plus dur que ça. L'effort de concentration nécessaire. On ne comprend pas, et on essaye, on repart, et tac, après, enfin on a compris. On vient demain, on a déjà oublié. Alors, on recommence. C'est très dur.
Alors, mais oui, Kiddush Hashem, pour répondre un peu à les deux questions, si le fait qu'on soit revenu à la Torah, c'était quelque chose qui a été provoqué par un malheur ou une crise, en tout cas, c'est un peu la méchanceance que finalement, si on avait...
Bon, alors je vais être en train d'expliquer. Ok, alors je suis en train d'expliquer. Écoute, c'est marqué Yesharem Darke Hashem. Les voies de Dieu sont droites. Tzadikim et Choubam. Les Tzadikim et justes iront dans ses voies. Vers Rechaim et Kachoubam. Et les Rechaim, ils trébucheront dessus. C'est-à-dire que Dieu, il agit droit. Maintenant, il te laisse l'option de voir les choses de façon honnête, juste, ou trébucher et de donner au contraire l'occasion de trébucher et de tomber. Si la Yeshiva était la planque, si la Torah était une chose agréable au corps, commode, tu aurais peut-être raison. J'aurais dit qu'un type, s'il a des problèmes, il se réfugie dans la drogue. Ça, j'entends. La drogue, c'est un nuage rose. D'accord? Il va voir un psy, il fait une thérapie, il vient à l'Eshiva, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Yeshiva, c'est dur, c'est astreignant. La barre est très haute. Il y a une exigence.
Les gens,
j'en ai à faire des choses. Ok, alors que les gens viennent voir. Que les gens viennent voir. Écoute, quelqu'un de droit, il vient en Yeshiva, il voit. Et un jour, une demi-heure, qu'est-ce qu'on voit des gens? Prends une Gemara. Aujourd'hui, ça va. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a fait tchouva. Ça n'existe plus, les gens. Dans chaque famille, quelqu'un a fait tchouva. Qui c'est? C'est un feignant? C'est des gens. D'habitude, c'est les top niveaux qui font tchouva. Ici en Israël, il y avait une pub. Dans tout, on voyait derrière les voitures, tu sais, il y a 20-30 ans, toutes les voitures, Hatovim, la Thaïs, les bons, être pilote de chasse. C'était la société israélienne, le top du top, les pilotes d'avion. Un mirage qui passait avec la croix de David dessus. Mashiach, d'accord? Eh bien, je crois que le pourcentage de Baal Tchouva pour une population donnée, le plus grand, est parmi les pilotes d'avion. Des gens bien. Des gens qui non seulement sont techniquement très très calés au niveau de leur... rapidité d'esprit, mais les pilotes c'était des gens aussi, ils prennent des gens qui sont la crème au niveau de l'humanité, c'est des gens bien, pour être pilote, il faut faire un guibouche, c'est donc je crois qu'il y a 1000 qui rentrent pour être candidat pilote, et à la fin ils en prennent 20. Alors c'est pas que les aptitudes techniques, c'est beaucoup aussi l'entraide, la droiture, d'accord? Parce qu'il faut des gens bien. Alors un type qui aime l'entraide, un type qui est droit, il y a qu'à mettre la barbe, c'est fini, voilà, c'est un religieux. C'est ça, d'accord? C'est des gens qui sont faits pour ça. Bah, les escadrilles entières qu'on fait Tchouba. Le plus grand tombeur de MiG, il a fait tomber 92 MiG. Et bien, il a fait Tchouba. Pour l'armée, c'était terrible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis au point des masques à oxygène avec barbe. Pour les escaliers des gens qui ont fait, tu vois, les gens, les commandos. Tu sais combien de gens dans le quartier ici, des anciens commandos? C'est extraordinaire, c'est des gens qui idéalistes pour Am Israël. Ils font tchouva. Donc, c'est facile de dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Regardez, venez, goûtez, vous verrez. Quelqu'un, il fait une page de Gemara, il me dit c'est facile, ok, je lui donne. Ça n'existe pas, c'est dur. Bien, tu vas regarder, suis une journée, tu verras. Les gens, ils font comme ça. C'est très dur. Tous les jours, comme ça, 9-10 heures d'études de Gemara quotidien, plus prière, plus tu ne peux pas parler à Shonara, tu peux regarder les films, regarder des films. Regarde, tout ce qui est bon, c'est interdit, vas-y, étudie. D'accord? Et ils le savent. Parce que si c'était pas comme ça, ils viendraient voir, viens apprendre un peu ton patrimoine. Ah non, mais ça me saoule. Pourquoi ça te saoule? Si c'est tellement la planque. Viens goûter un peu à la planque. Donc en deux mots, ils se font un argumentaire faux. Ils sont dans le faux, ils se confortent dans le faux avec un argumentaire qui est faux. Tout faux, c'est clair, viens goûter, tu verras. Donc, c'est ce que j'en en train d'expliquer, que les gens se confortent en disant un argumentaire du type, il a eu des problèmes psychologiques, il a eu un malheur, quelque chose, donc il a trouvé un échappatoire, la planque, la yeshiva. C'est faux. C'est vrai que le malheur a été un déclencheur dans la mesure où il y a une remise en question du pourquoi de la vie. Mais ça ne provient pas du ventre qui veut se calmer, ça provient de la tête qui veut une réponse aux questions légitimes, les questions existentielles, les questions des gens bien. Il n'y a que les crétins qui posent des questions, comme des moutons dans le troupeau. Un type réfléchit, pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je en tant que juif? Et tu vas bien qu'on ne te laisse pas tranquille en tant que juif. On ne te laisse pas tranquille. On ne te laisse pas tranquille. Dieu ne veut pas te laisser tranquille. Alors, pourquoi il fait ça? Assimile-toi tranquille. Tu n'arrives pas. On ne peut pas s'assimiler. On nous dérange. Pourquoi? Dieu nous dit que tu es juif. Ah, va voir, viens vérifier.
Parce qu'on parle initialement. C'est qu'en fait, ces gens qui nous traitent de détraqués avec force pour en fait tout ça, ça sert à rien de parler finalement. Ils ont une augmentation des filles.
Est-ce que ça sert de parler aux gens qui nous traitent de détraqués? Ça dépend. C'est le type. Il y a un type qui est droit. Tu donnes argumentation, il te répond argumentation. Il y a un qui donne argumentation, il te répond par une blague. Oui, mais vous les religieux. La Torah appelle ça un let, un railleur. Tu le parles droit. Et il t'envoie une raillerie. Le roi Salomon compare cela, il dit que 100 flèches ne peuvent pas toucher le railleur. Le railleur, c'est comme s'il a un bouclier enduit d'huile, de graisse. Et toutes les flèches, tric, elles glissent dessus. Lui, il a un argument très bien. Il dit, tu me fais rigoler. Je te donne un argument. Tac, 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 tac. S'il est sérieux, il répond, argumentation 1, je te réponds comme ça. 2, tac. Ça, c'est, on peut parler intelligemment. Et ça, on l'aura parce qu'on a raison. C'est très facile. Mais lui, quand il n'a pas le choix, il y a le système D qui s'appelle la raillerie. Ça veut dire, je te réponds pas à ce que tu m'as posé comme question, je te réponds avec une raillerie du genre, j'ai toujours une réponse à donner. C'est une réponse à. De toute façon, vous êtes, quoi que tu me dises, de toute façon, vous êtes des obtus extrémistes. C'est-à-dire, tu ne me réponds pas à ce que. C'est pas un argumentaire, ça. Ça s'appelle raillerie. Alors, le roi Salomon, dans Michel, il a déjà donné la sentence du railleur. Let's taquer. Let's le railleur, faut le frapper. C'est-à-dire, on n'a pas lui parlé. Qui va le frapper? Dieu. Le type qui se moque de tout, il se moque de lui-même. Il n'est pas prêt, du même que sa neshama lui envoie à lui des messages de vérité. Il répond par une raillerie, oui, mais c'est n'importe quoi. Pas avec un argumentaire, l'aneshama envoie, l'aneshama elle parle sechel, elle parle intellect, rationnel. Donc elle envoie des arguments rationnels, Tac, tac, tac. Lui l'envoie balader, tac, avec son bouclier, tac, tac, tac. Comment on peut le réveiller? On va lui faire mal. Si Dieu l'aime, Dieu va le frapper. Et là, il se réveille. Quand Dieu l'aime.
Alors, s'il l'aime pas,
S'il l'aime pas, il laisse crever. C'est le pire. Quelqu'un qui, une ordure, qui vit sa vie très bien, il a l'argent, il a la santé, il a la famille, il a les femmes, il a tout. Et c'est une ordure. Ça veut dire que Dieu ne l'aime pas, c'est tout. Dieu le laisse dans son flop pour le perdre. Ce qu'il arrivera dans le monde de vérité, il n'est pas lui, il n'a rien fait. C'est un magouilleur, et un magouilleur, voilà, c'est tout.
Si le railleur, c'est...
Maintenant, toi, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on va faire avec la famille proche qu'on n'a pas ignorée? Regarde. Alors, c'est clair que les personnes qu'on dérange le plus dans notre tchouva, c'est l'entourage proche. Donc forcément la famille, les amis proches. La meilleure façon, à mon avis, c'est de répondre très calmement à l'argumentaire. Tu réponds. Ils verront que tu as quelque chose à dire, mais bon, vu qu'ils ont... Ça va les embêter, parce qu'ils t'apprécient, ils savent que tu es quelqu'un de bien, tu es un argumentaire qui tient la route, ils voient que c'est même dangereux de te parler. Donc ils vont se mettre en colère, ou ils vont tomber balader. Toi, tu restes calme. C'est marqué dans la Torah aussi, « Ahemet yore darko », la vérité montre sa voie. Au bout d'un moment, ça devient clair. Attends 3 ans, 5 ans, 10 ans. 10 ans, maximum 10 ans. Après, tu fais l'étude comparative. Ils sont où eux, et t'es où toi. La qualité de vie que tu as, la paix dans le couple que tu as, l'éducation, les enfants au regard pétillant, si tu es un bon juif, il ne suffit pas de faire Shabbat, manger kasher pour avoir tout ça, d'accord? C'est un investissement sur les qualités d'âme sans cesse, c'est un travail sur soi, d'être un métier vrai, honnête, bien, c'est un travail. Mais quand tu travailles vraiment, ça amène ses fruits, désolé. L'enfant qui respecte son père aujourd'hui, qui respecte sa mère, c'est une chose que les gens ne connaissent pas, ils sont tous ébahis. Regarde, que tu saches. C'est marqué dans Shabbat, page 104. Emet kae sheker lokai. Emet signifie la vérité. Kai, elle reste. Le mensonge, il reste pas. Gemara dit comme ça, elle fait un petit truc sympathique. Elle dit que le mot sheker, mensonge, toutes les deux mots sheker tiennent sur un pied. Shin, kouf, resh, ça tient sur un pied. Emet, ça tient toujours sur deux pieds ou sur une base. La vérité, elle reste. Le mensonge, il passe. Le mensonge, il crie très fort. Toujours comme ça. Le emet. On ne peut pas. Regarde Israël dans le monde. Donc, on considère qu'on a la vérité, et les sœurs avoir la vérité, parce qu'on est très présomptueuse, d'accord? On dit qu'on a la vérité, et les autres se trompent. Tout le monde nous marche dessus. On dit, ok, attends, on va voir à la fin. À la fin, qui reste? Pour le moment, c'est nous qui restons. Si tu peux les convaincre aujourd'hui, avec un argumentaire, qu'ils sont prêts à écouter la vérité, ok, très bien. Mais s'ils ne sont pas prêts à écouter la vérité, ils ne veulent pas la voir. Ils ne veulent pas la voir, pour raison X, Y, Z, c'est pas commode, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux de force le prendre, tiens, non. Je continue ma voie, attends, patiemment, de façon la plus honnête, la plus toraïque qu'il puisse y avoir, patiemment. Quand eux sont méchants, toi tu restes gentil. Ils t'enquiquinent trop, tu décroches, tu pars, d'accord. Je vous réponds, pourquoi vous criez, moi je vous réponds très calmement. Pas besoin de se fâcher, écoutez, soyons au-dessus de ces petites considérations bassement religieuses. Je vous aime. Aimez-moi, je suis tolérant, je vous laisse faire ce que vous voulez, laissez-moi soyez tolérant, pas. Faites preuve de grandeur d'âme. Si vous m'aimez vraiment, moi je suis heureux comme ça, laissez-moi. J'ai rien fait de mal, je ne me drogue pas, je ne suis pas dans un ashram en Inde, je ne suis pas le chef de la mafia, j'ai lu la Torah que vous respectez, vous, c'est... Oui, mais tu fais trop. Ok, c'est votre choix, soyez tolérant, je ne voulais pas le changer, laissez-moi, soyez tolérant. Donc tu peux avoir un argumentaire qui va les embêter parce que tu as raison. Mais si tu restes calme, tu réponds comme il faut bien, au bout d'un moment, ils vont comprendre que, ok, ta façon de vivre. Et s'ils s'obstinent, ils font la guerre, alors tu te protèges aussi. J'ai connu des parents d'élèves. Moi, le premier type qui a fait tchouva, c'était un meilleur copain à mon frérot. Il a passé un Shabbat chez nous. Et on faisait Matzah de Betzah à la Gemara quand j'avais 22 ans, d'accord, 23 ans. 23 ans. Betzah. Et lui, il a vu, c'est pas possible. Un traité entier qui parle d'un œuf. C'est pas possible. Alors demain, il partait à la plage. Plage mixte, d'accord. Il parle aux copines, tout ça, tu te rends compte. Des pages entières sur un œuf, sur un œuf, sur un œuf. Bon, aujourd'hui, c'est un ancien prof de la yeshiva. Il a fait tchouva complète. Son père, ma femme était enceinte de mon premier fils. Son père m'a dit, vous savez, c'est dommage, votre femme est enceinte. Un malheur pourrait lui arriver. Il a menacé. Il a carrément menacé. Alors moi, je vais avoir un grand rave qui m'a dit, appelle le père. comme ça. Tu appelles un copain à ton copain, qui lui dise, écoute, tout ce que je dirai demain, c'est de la bêtise. Tu appelles le père, écoutez, monsieur, vous avez entièrement raison. Moi, je ne veux pas que votre fils fasse tchouba. Passez-le moi, écoutez. Et moi, devant le père, je dis, écoutez, tu m'entends? Tu rentres, tu fais tout ce que ton père te dit, tu manges en cachère, tu fais pas chaval. Le pauvre, il comprend pas ce qui se passait, d'accord? Il n'a pas encore reçu le message du... Et après, il a reçu le message, voilà, donc on a calmé le père, il a fait tchouba, et voilà. Et le père, aujourd'hui, est décédé, et je peux te dire que Baruch HaShem, dans le ciel, il est très haut, parce que son fils, aujourd'hui, il le fait monter. Et tu as des gens tordus qui sont prêts à assassiner, parce que leur fils a fait le grand crime de faire tchouba. Ça existe aussi. Alors, t'as tout, qu'est-ce qu'on doit faire? Se préserver, faire attention, mais avec des gens honnêtes, droits, leur montrer qu'on les respecte. C'est déjà beaucoup. Que nous respectent aussi un peu, et qu'ils verront que, après tout, je te dis, après, avec un peu de temps, si quelqu'un... T'as des balais de chouva qui ne savent pas se comporter. Ils rentrent, ils veulent d'abord convaincre leurs parents de changer. Très souvent, les parents ont peur que quand tu fais de chouva, tu vas aussi leur demander à eux de tout changer. Ils veulent pas. Alors, écoutez, moi, je vous laisse, faites ce que... C'est bien de leur dire. Sois clair entre nous, je ne vous dirai jamais quoi faire. Je vous en prie, ne changez surtout pas. Dès que tu dis ça, la pression monte. Quand tu rentres à l'échelle, ils ont peur que tu voulais tout changer. Dis-leur, je veux surtout pas vous changer, je vous adore comme ça, surtout pas. En aucun cas, devenez plus religieux. Tu as dit ça, déjà, ils voient que tu es tolérant. Parce que tu as une image d'intolérant. Hein? Maintenant, ce que vous voulez maintenant, fumer Shabbat, il n'y a pas de problème. Vous voulez maintenant faire manger Shabbat, pas de problème. Mais vous respectez, moi aussi. Moi, j'aurai ma petite plata avec ma petite soupe, d'accord?
Hein? Si vous allez avec des enfants, ils ne peuvent pas mettre la télé avec des frangins, ça vous est obligé de demander qu'ils ne voulaient pas aller.
Mais non, eux font ce qu'ils veulent maintenant. Tu veux que je vienne chez toi avec mes enfants, écoute, je te respecte beaucoup, mais moi, pour l'instant, je ne veux pas, d'accord. On peut discuter, mais aller lui changer sa vie à lui, non. Si tu veux que moi, je vienne, ok.
C'est pas que je veux changer ta vie, mais c'est qu'il faut que tu me respectes.
Un minimum, C'est possible, avec la bonne volonté, avec sans les nerfs. Avec un discours intelligent, et on est fait pour ça avec le Mara, ça se construit à des intelligents, ça devrait aller. Maintenant, il y a des anti-religieux, antisémites, qui ne veulent pas comprendre. Il y a des parents comme ça, d'accord, des vrais antisémites, qui ont la haine de la Torah. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut faire avec. Oui.
En fait, le problème, vous avez dit, d'accord, des fois, on leur dit, voilà, moi je suis heureux comme ça, c'est mon problème même, ou c'est avec des amis proches, ou à la famille proche, tout ça. On leur dit, moi je suis heureux comme ça, c'est mon problème, je ne demande pas de changer. Mais des fois, c'est leur orgueil qui est frappé, parce qu'ils s'aperçoivent bien que si on est entier dans notre démarche, on peut couper les ponts avec eux. Si on est vraiment entier, si par exemple on avait un passé, des personnes qui n'étaient plus en phase avec les projets qu'on a aujourd'hui, ils le savent, ils comprennent que le chemin, ils vont se séparer. Donc c'est leur orgueil qui est frappé, donc vous dites, c'est pas totalement vrai, parce qu'on sera obligé de...
Alors, le discours à voir... Alors, le discours est comme ça, regarde. Tu leur diras comme ça, regarde. Moi, aujourd'hui, tes intérêts et mes intérêts, c'est plus la même chose. On n'est pas... Il y a des choses qu'on faisait ensemble, je ne peux plus faire maintenant. Aller en boîte avec toi, parler de filles, c'est plus mon truc. Moi, je t'apprécie beaucoup. Et je suis convaincu que c'est réciproque. Alors, viens, faisons preuve les deux. On va montrer que notre amour et notre attache, elle est au-dessus de ces basses considérations religieuses. C'est pas parce que je ne parle pas de filles avec toi que tu vas me haïr. Là, tu l'as tué, tu comprends? Tu l'as tué, parce que lui peut dire, non, si tu ne parles pas de fille avec moi, je t'aime plus. Ah bon? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, et c'est, ce que je dis maintenant n'est pas un argumentaire, c'est une vérité. Si vraiment le type, il t'aime, toi, il doit être capable de pouvoir continuer à avoir un discours amical avec toi, bien que tu es différent. C'est ça l'amour.
Il n'y a plus de sujet de conversation.
Pardon ? On peut trouver. Et c'est important de trouver. C'est important de trouver. Très souvent, des familles, des gens non religieux, d'accord, leur enfant fait tchouva. Et dans le contact, il est nécessaire que l'enfant trouve des sujets de discussion dans lesquels on peut être, une sphère dans laquelle nous vivons ensemble. On a de quoi, on a un sujet dont on puisse parler, hein. Une sphère dans laquelle, commune aux deux. Sinon, effectivement, si toi tu fais que parler que tu auras toute la journée de la Gemara, machin, alors... Évidemment, ça va pas. On doit pouvoir se mettre en relation avec les gens qui sont différents de nous dans leur domaine, tant que ça reste dans le domaine du permis. Baruch Adonai, l'homme amen.